Les voix de service magazine, mercredi 18 octobre. Oui, j'ai regardé la date sur ma tablette électronique pour pas me tromper cette fois-ci. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Daniel Lachance.
Bonjour.
Bonjour Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Et moi-même Isabelle Falardeau, je me dis bonjour. Alors de quoi on va parler en hors d'onde, mais même si on a appris le... Ben non, mais je parlais plus du tragique décès, là, de Tragically... Et puis on va peut-être le mentionner un petit peu. Ben oui, Gordani. Mais sinon, au niveau musical, Daniel?
Eh bien, je vais vous parler du gala de la SOCAN qui a eu lieu lundi soir et des prix, principaux prix qui ont été remis.
Mm-hmm.
Voilà.
Et mon cher Serge?
Moi, dans l'histoire, je vais vous parler d'un essor inquiétant, le tourisme noir.
Oh!
Oui, je vais vous parler de ça. Et ensuite, deux petits articles. Un, savez-vous qu'on a déjà égaré une bombe atomique?
Où ça?
Ouais, en Espagne, près d'Espagne.
J'espère qu'on l'a retrouvé.
Oui, on l'a retrouvé, mais je vous ça a été assez long. Et ensuite, un vol sans retour pour les bébés du Vietnam, quelque chose qu'on appelait le « baby lift ». Comme un lift, là, vous prenez un lift.
Mm-hmm. Ah, baby okay, lift. D'accord. Ben, de mon côté, je vais vous parler des problèmes des fonctionnaires autochtones. Et en tout cas, ça va être en deuxième partie. Puis en première partie, je vais vous parler d'aider les enfants autochtones à s'ouvrir sur leurs émotions. Et bien, c'est comme ça. Alors, ben, je vais commencer, tiens, avec justement ces enfants autochtones qu'on veut aider à s'ouvrir à leurs émotions. C'est la Fondation Jasmin Roy qui lance un nouvel outil d'expression des sentiments. J'ai trouvé l'article sur plusieurs des plateformes du groupe Journal de Montréal. Enfin, moi, c'est dans le Journal de Québec que j'ai choisi de lire l'article. Alors, c'est un article de Paul-Pierre Biron qui date du 11 octobre. Alors, la Fondation Jasmin Roy profitait ce jour-là d'un colloque sur la persévérance scolaire chez les Premières Nations pour lancer un nouvel outil visant à faciliter les apprentissages sociaux et émotionnels chez les enfants autochtones. Visant l'alphabétisation des émotions et des besoins, l'outil mis sur pied par la Fondation et développé par l'enseignante Patricia Anne Blanchet permettra aux enfants de mieux exprimer ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Ils y découvrent diverses émotions et besoins, accompagnés de pictogrammes facilitant l'identification. Une série d'activités menant au dialogue accompagne le tout. Quand tu acquiers ces compétences-là à un jeune âge, quand tu parviens à identifier et à parler de ces émotions, tu vas avoir de meilleurs comportements émotionnels et relationnels avec l'entourage. C'est donc plus facile de rester à l'école et d'y trouver ton compte par la suite, explique Jasmin Roy, très heureux d'avoir trouvé les partenaires pour développer ces affiches dérivées dans plusieurs dialectes autochtones. Ultimement, l'outil deviendra aussi une manière pour les enseignants... Là, juste une petite parenthèse, dialecte, je ne sais pas si on ne devrait pas plutôt parler de langue autochtone, mais en tout cas, ça, c'est la fin de la parenthèse, une petite question que je me suis posée.
Il faudrait leur poser la question.
Mais c'est ça. Ultimement, l'outil deviendra aussi une manière pour les enseignants de prendre le pouls de leur classe, de mieux lire leurs élèves. Un élève qui, par exemple, dit chaque jour ressentir de la colère ou de la tristesse au moment de faire l'exercice, permet à l'enseignant d'orienter ses interventions. L'enfant peut en venir à dire qu'il y a des problèmes à la maison ou qu'il a besoin de voir des amis. Ça permet de prendre la température de la classe tous les jours en permettant de lire l'émotion de l'enfant qui n'est peut-être pas capable d'en parler autrement. La nouvelle initiative de la Fondation Jasmin Roy est lancée aujourd'hui, était lancée ce jour du 11 octobre, dans le cadre du troisième colloque sur la persévérance et la réussite scolaire chez les premiers peuples organisé par le Centre Nikanit de l'Université du Québec à Chicoutimi. D'une durée de 3 jours, le colloque se voulait une véritable pépinière d'idées visant à améliorer le sort de l'éducation autochtone, un dossier parfois ardu vu les nombreux intervenants impliqués. Tout le monde a un idéal, qui est évidemment des institutions autochtones. Mais le colloque n'est pas un véhicule pour ça. C'est apolitique. Ce qu'on voulait était de créer un événement qui met toutes ces personnes-là en lien, indiquait le directeur du Centre des Premières Nations Nikanit, Marco Bacon, qui organise le colloque. Désirant aller dans le même sens, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, est-ce qu'il a été changé depuis ou... Ça, je ne suis pas certaine, non?
De l'Éducation?
Il est resté en poste dans le remaniement. Donc, elle a annoncé mardi la tenue, donc mardi pas hier, mais la semaine dernière, la tenue d'ici la fin octobre d'une première rencontre de la nouvelle table pour la réussite éducative autochtone. Espérons que ça va fonctionner. Il y avait des lieux de discussion informels. Maintenant, il y aura un endroit où on discutera de la réussite des élèves autochtones et où on posera surtout des gestes en ce sens. C'est un pas dans la bonne direction, croit le ministre Proulx. Et je passe maintenant le bâton de parole à Daniel.
Oui, mais avant de vous parler de mon sujet, on en a glissé un mot tantôt. Je vais juste vous lire rapidement ce que j'ai vu dans la presse à l'instant. Le chanteur du groupe canadien de Tragically Hip, Gord Downie, est décédé mardi soir. La formation en a fait l'annonce sur Twitter mercredi matin, donc aujourd'hui. Gord Downie était atteint d'un cancer du cerveau. Il avait 53 ans.
Ah, oh, c'est tellement jeune.
On en avait parlé il y a 3 semaines environ. On parlait du documentaire sur le groupe Tragically Hip qui s'appelle le documentaire
Long Time Running,
effectivement. Donc, je vais passer à mon sujet qui est... Je viens de changer de page. Désolé, je reviens tout de suite.
Mais pendant ce temps-là, j'en profite. Vous avez mentionné la mort de Gord Downie, ça m'a mis les larmes aux yeux parce que j'ai appris hier le décès d'une amie.
Mm-hmm.
Et... Ben, je sais pas. Je pense que quand je vais entendre Tragically Hip maintenant, je vais toujours penser à mon amie Gabrielle, qui, elle, a eu quand même le temps de se rendre jusqu'à 88 ans. Mais voilà, fin de la parenthèse, vous avez retrouvé votre page.
Nos sympathies. Donc, l'article que j'ai trouvé est dans Le Devoir d'hier, « L'enjeu des droits d'auteur résonne au gala de la SOCAN ». Que la question des droits d'auteur résonne au gala de la SOCAN, la société qui gère ces mêmes droits pour les créateurs de la musique d'ici, c'est normal. Mais l'époque, la récente politique culturelle canadienne et les monstres du web qui font s'effriter les redevances ont remis ces enjeux de l'avant lors de la soirée de festivités célébrant les créateurs et les chansons populaires des derniers mois et des dernières décennies. C'est Robert Charlebois à qui on a rendu hommage lors de la soirée pour l'ensemble de sa carrière, mais aussi pour la pièce Lindbergh, qui a soufflé sur les braises, s'inquiétant pour l'avenir de la chanson et de la langue française, ainsi que pour les droits d'auteur. On a connu l'âge d'or du vinyle et du CD et des droits d'auteur, mais c'est un métier qui est en train d'agoniser. C'est de l'expropriation, on nous dépouille de nos œuvres. En verve, Robert Charlebois avait plutôt interpellé les autorités fédérales. J'ai l'impression que Justin Trudeau est en train de négocier avec un gorille. Moi, j'ai eu de la misère avec une guenon. Vous êtes au courant de l'histoire. Il était invité sur une émission en France et une guenon l'a attaqué, supposément. J'ai pas vu l'extrait.
Moi, j'avais pas entendu parler de ça. Ça m'échappe.
Il a attaqué, il a pas à coup de poing. Non, non. Un coup ici, ça lui a fait
une côte fêlée.
Non, mais ça peut quand même...
Ça fait mal, une côte
fêlée.
Je pensais, moi, quand il disait, parce qu'il y avait une bataille dans le studio.
Non, non, c'était pas une lutte très longue. Donc, pour reprendre ma phrase, j'ai l'impression que Justin Trudeau est en train de négocier avec un gorille. Moi, j'ai eu de la misère avec une guenon et je lui tire mon chapeau, a-t-il lancé, ironique. Et j'espère que vous, Mélanie Joly, vous allez arriver avec un cadeau. Vous avez 2 prises contre vous, vous êtes mieux de faire un circuit à soir. En entrevue au Devoir, après avoir reçu son prix pour la chanson Lindbergh, Robert Charlebois avançait comme solution de taxer les produits culturels invisibles. Mélanie Joly doit faire quelque chose pour nos droits d'auteur, a-t-il tranché. Présente dans la salle, la ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly, a plus tard rebondi sur ces enjeux, rappelant quelques lignes de sa politique culturelle. Non, je ne voulais pas la lire. Déjà de la difficulté à aller ça. Avoue en passage qu'elle entendait bien les critiques à son égard. On va réviser la loi sur le droit d'auteur parce que tout au long des consultations qu'on a menées, on a entendu nos auteurs, compositeurs et musiciens qui veulent avoir accès à une rémunération juste. Madame Joly a aussi rappelé qu'Ottawa allait s'attaquer aux enjeux autour de la commission du droit d'auteur. On va s'assurer de réformer notre commission pour que nos artistes soient payés plus rapidement avec des tarifs qui sont en lien avec le marché d'aujourd'hui. Bref, il y a Netflix, mais le reste sera à suivre. Plus tard, Louise Forestier a surfé sur les propos de son vieil acolyte, s'inquiétant pour son métier et la culture en général. « Je vais clamer haut et fort qu'il y a des deals qui ne se font pas au nom du respect de la culture. » La chanteuse a non pas invité les artistes à sortir dans la rue, on n'est pas bon là-dedans, mais à écrire, chanter et danser. « S'il vous plaît, soyez plus fous que jamais. Il faut se prononcer au-dessus des concepts de ce qui se vend ou pas. » Et là, elle a dit un mot en anglais qui commence par F et qui finit par K et qui a U et C en les deux. A-t-elle lancé sous les applaudissements? Le gala de la Socan, animé par Stéphane Archambault, a multiplié les hommages à deux autres grands, d'abord Leonard Cohen et Monique Lérac, craquante avec ses pointes lancées vers Plamondon qu'il avait présenté. La Socan a aussi mis en lumière une dizaine de titres populaires récents comme Miami d'Ariane Moffat ou Montréal d'Ian Kelly, mais a aussi créé 11 nouveaux classiques, des titres ayant plus de 20 ans et qui ont reçu au moins 25 000 rotations à la radio québécoise. Luc de la Rochelière a vu trois de ses pièces récolter ce titre, Cache City, Six pieds sur terre et Si je te disais reviens, tout comme France d'amour avec Ailleurs, Animal et Mon frère. C'est pas juste 25 000 rotations, il y a le temps aussi, expliquait-elle au Devoir avant la cérémonie. Il y a plein de générations maintenant qui chantent ces chansons-là et pas juste les refrains, les couplets aussi. Autre nouveau classique, Si Dieu existe et J'ai souvenir encore de Claude Dubois, La fille au bas nylon et La légende de Jimmy par Luc Plamondon et Close Together de The Box. Voilà. Vous vous souvenez de cette chanson-là?
Oui,
le
ben.
Québécois qui chante en anglais.
Probablement que je reconnais pas le titre, mais oui, les chansons de The Box.
Qui s'était fait un petit peu varloper par RBO
un petit
à l'époque.
Non? Oui.
I want to pine, c'est eux qui étaient visés.
Voilà.
Whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. Qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir? Alors, je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Où je suis rendu, j'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Y'avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient du ballon pour la tenue dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je sais plus. Chut, 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 chut
ma Sophie à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, j'suis rendu ado du chameau. Je préfère mon Québec air trans, Northern, Eastern, Western, puis pas l'American. Mais j'sais plus, je ne sais plus où j'suis, où je suis rendu. J'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Allez là, que j'avais ramassé sur Québec Air Trans, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
C'est qui? Je vous regarde, les gars. Quelqu'un va nous présenter cette charmante musique qu'on vient d'entendre?
Oui, c'était Lindbergh de Robert Charlebois, je pense. Puis une petite anecdote qu'on se racontait, j'écoutais attentivement et vers la fin, on entend clairement « J'ai fait une chute, une crise de chute ». Et Charlebois, je me souviens de l'avoir vu en entrevue dire « On ne dit pas une crise dans la chanson, on disait une triste chute ». Ou c'est Louise Forestier qui disait ça. Mais si on écoute attentivement, me semble, je sais pas vous autres.
Ben moi aussi j'ai entendu une crise de chute.
On entend ce qu'on veut entendre peut-être, mais ça sonnait pas, ça sonnait pas triste.
Mais voilà. Enfin, on peut. c'est une excuse, disons, acceptable, si jamais on veut vraiment se défendre. Mais on doit plutôt s'en vanter au début.
C'est moi.
À ma droite, Monsieur Serge, qui va nous parler d'histoire.
Oui, dans la revue Historia de mai 2017, un article de Lionel Richard sur le tourisme noir. Donc, je vous définis le tourisme noir de son appellation anglo-saxonne « dark tourism » ou « tourisme du désastre » se développe depuis une dizaine d'années et entraîne les amateurs d'émotions fortes sur des sites ravagés par des catastrophes naturelles ou historiques.
Donc, on ne parle pas des personnes noires qui font tourisme. Non, j'avais parlé du fameux guide là, de voyage pour le touriste noir.
J'imagine qu'on parle des endroits comme Ground Zero.
Donc, c'est vraiment peu le voyeurisme là, du tourisme.
Oui, ben c'est ça exactement, oui. Enfin, dans l'article, là, vous allez voir, c'est assez bien expliqué. Le titre de l'article, c'est « Europe, l'essor inquiétant du tourisme nazi
». Ah, oui.
Oui, parce qu'il y a un très, très fort tourisme. D'ailleurs, moi, je suis allé à Berlin l'an dernier. Ça se glisse bien la conversation dans l'émission.
Ouais, ouais.
Mais je suis allé visiter ce fameux bunker dont je vais vous parler. Mm-hmm. Et je suis d'accord avec l'article, mais il y a quand même
des nuances à apporter.
Ouais, j'ai vu personne, moi. Puis j'ai visité deux camps de concentration aussi en Allemagne. Un Allemand et un Tchécoslovaquie. Puis j'ai vu personne là danser ou rire. Là, ça fait prendre conscience aux gens.
Oui, c'est ça, exactement.
Aux visiteurs. Donc, c'est peut-être pas. Mais il faut quand même faire attention à la façon que c'est présenté. Donc, à côté des mémoriaux dédiés aux victimes de la guerre, existent d'autres sites nés d'initiatives privées et plus ou moins authentiques qui alertent les historiens. Ces derniers craignent que des visiteurs, toujours plus nombreux, en tirent un frisson nauséabond plutôt qu'une meilleure compréhension de la période. Mmh.
Le libellé en anglais suggère parfaitement de quoi il est question et quel public est visé. Berlin Story Museum. Ce musée de l'histoire de Berlin occupe un endroit insolite, un abri anti-aérien. Les locaux ont été ouverts dans ce corps de béton en 2014. C'est le seul musée, indique la publicité maison, qui raconte l'histoire de Berlin sur un parcours de 90 minutes au moyen d'un audioguide en 10 langues. 30 étapes, avec photos, maquettes et films, reconstituent 8 siècles de l'histoire de la capitale allemande. En fin de parcours, les visiteurs découvrent le centre de la catastrophe et l'envol de l'enthousiasme pour Hitler, jusqu'aux journées apocalyptiques dans son bunker en mai 1945. Devant cette entreprise privée de marchandisation de l'histoire de l'Allemagne nazie par le truchement d'un tourisme peu surchargé de principes moraux, beaucoup de Berlinois n'ont pas manqué de protester. Des historiens ont mis en garde contre le choix d'appâter les touristes par une scénarisation trompeuse, jouant sur un spectaculaire de pacotille avec presque rien d'authentique et des explications sommaires. « Nous n'avons là qu'une variante de Disneyland », a déclaré en octobre dernier l'un d'eux, Kay von Damaros, au journal Berliner Zeitung. C'est justement pour éviter d'alimenter une nostalgie dangereuse, répondent les animateurs du Berlin Story Museum, qu'ils offrent au tourisme le faux bunker de Hitler en récompense finale de leur visite. Reconstitué, le cabinet de travail du Führer, portrait de Frédéric II au mur, et sa chambre à coucher avec le fameux sofa ne leur apparaissent que tout au bout d'un itinéraire pédagogique à supporter avec patience. Plusieurs journaux français ont répercuté la polémique engendrée par cette installation historique à 2 kilomètres des lieux réels de la tragédie du vrai bunker. Dans le Figaro du 28 octobre 2016, Nicolas Barotte résume bien l'affaire. Les historiens allemands craignent une dévalorisation de la mémoire et l'essor d'un tourisme nazi. Constat dont l'actualité est plus brûlante que jamais. En effet, la direction du Berlin Story Museum a annoncé pour mai 2017, presque en concordance avec les célébrations du 8 mai 1945, une nouvelle et très grande exposition permanente. J'ai regardé sur Internet hier, j'ai rien vu sur cette fameuse nouvelle exposition-là.
Tu devais ouvrir,
Alors, c'est peut-être, j'avais peut-être pas le bon titre. En tout cas, j'ai regardé, fouillé un peu, puis j'ai rien vu. Son thème serait Hitler ou comment tout cela a pu arriver. Les touristes sont invités à s'imprégner des phases de l'écroulement fatal à l'intérieur du faux bunker réinventé. La mise en œuvre d'un tel projet, d'autant plus surprenante que les vestiges de l'Allemagne nazie sont loin d'être absents à Berlin. Des lieux de mémoire, financés sur les deniers publics, y ont été constitués plus que partout ailleurs en Allemagne. Le monumental stade édifié pour les Jeux olympiques de 1936 a été réhabilité, rien de moins. La prison de Plötzensee, où les antinazis étaient torturés à mort, a été transformée en musée de la résistance. Dans le quartier de Kreuzberg, où régnait la Gestapo, la direction de la SS, l'Office central des services de sécurité, se dresse depuis 2010 le cube de verre du musée Topographie de la Terreur, qui attire près d'1 million de visiteurs par an. J'ai fait partie du million de visiteurs, pour ça. Partout, mais c'est ça, on ressort pas, petite note personnelle, on ressort pas de là avec un sourire, là, tu sais, ça te fait prendre conscience des horreurs qu'il y a eu dans l'humanité, puis il faut faire tout ce qu'on peut pour ne pas que ça revienne.
Puis oui, puis pour s'en souvenir, parce que c'est vrai qu'on l'a pas, vécu. Moi, je suis de la génération où on a été assez proche de l'époque où ça a eu lieu pour quand même connaître des gens qui l'ont vécu, mais plus ça va, plus les gens vont... ça va devenir abstrait, puis c'est important qu'on s'en souvienne.
Ben, c'est ça, oui. Il y a même un enseignant, il y a quelques années, en Saskatchewan, dans l'ouest du pays, qui donnait un cours en disant que l'Holocauste n'avait jamais eu lieu.
Il y a de plus en plus de gens qui l'ont
dit.
Il faut vraiment garder des traces.
Ben oui. Partout, une scrupuleuse préoccupation de didactisme. Dans ces conditions, pourquoi l'initiative d'une entreprise telle que le Berlin Story Museum? Ce qu'il explique d'abord, c'est l'extraordinaire industrie mémorielle de la Seconde Guerre mondiale qui a été développée sur tous les continents depuis les années 1980. Téléfilms, documentaires par centaines, amplification des pires élucubrations sur Internet. Aux États-Unis, vente de souvenirs nazis au barème des antiquités les plus rares, comme La correspondance de l'adolescent Joseph Goebbels, c'était un des tortionnaires nazis. Oui. L'album de photos du maréchal Göring et, tenez-vous bien, tout récemment, le téléphone rouge dont le chef suprême Hitler disposait dans son bunker, vendu 229 000 euros en février dernier.
Ah oui, je me souviens de ça. C'est,
Taper Hitler sur Google aboutit à des références par centaines de milliers. Mais l'histoire du vrai bunker dans lequel Hitler s'est tapis 100 jours permet aussi d'entrevoir le sens de ses séquelles symboliques, aussi bien dans la tête de beaucoup d'Allemands, toutes générations confondues, que dans celles d'étrangers qui n'ont été sensibilisés à l'Allemagne nazie qu'à travers le prisme des simulacres. Une enquête conduite en septembre 2008 révèle qu'en une heure, un samedi, pas moins de 10 groupes de touristes submergent l'espace vert du bunker avec leur guide, autrement dit 200-300 personnes recherchant davantage les troubles du sensationnel qu'une approche de la vérité historique. C'est ça qui est peut-être dangereux. Les détracteurs allemands de ces visites guidées n'hésitent pas à parler à ce sujet de la surexploitation d'un tourisme du frisson. Le succès du Berlin History Museum est au fond en partie la conséquence de l'irréalité du bunker de 1945, si bien qu'il en apparaît comme le substitut indispensable, parce que le vrai bunker a été complètement comblé pour ne pas justement servir de monument de pèlerinage. Il prend place dans une catégorie de circuit culturel qui, avec une réclame adéquate à l'étranger, ne date pas d'hier, contrairement à ce que les polémiques laissent croire. Planter Reich en main, voici les touristes américains et britanniques qui partent à la recherche des traces du Berlin nazi, décrit avec ironie une journaliste allemande dès avril 2005. À observer leur groupe, ajoute-t-elle, l'intérêt pour ce passé semble bien moins provenir d'anciens combattants que de jeunes gens. Même spectacle à Munich, Hitler, ça marche toujours, se félicite en 2009 l'animateur d'une agence qui propose en 3 heures un Third Reich Tour dans la capitale du mouvement nazi.
Voilà.
Et vous avez dans un autre domaine, à Londres, vous avez une visite des lieux de Jack l'Éventreur.
Ah, ouais.
On monte à 18. Oui, une visite guidée.
Mais ça, à la rigueur, je trouve que c'est moins.
C'est sûr que c'était 6-7 femmes
qui
ont été
assassinées.
Il y a moins de victimes.
Condition horrible, mais c'est ça, c'est un phénomène, c'est rentré. Là, on est plus loin aussi, plus d'un siècle.
Et en plus, c'est un personnage, mais le coupable n'a jamais été identifié.
On ne sait pas, c'est ça qui est. Oui, le mystère plane toujours.
Ouais.
Eh bien, merci. Alors, on se retrouve en deuxième partie pour d'autres articles tout aussi intéressants.
Smoke them out. You are ahead. on vient d'entendre la pièce Ahead by a Century, la formation Tragically Hip, dont on parlait précédemment avec l'annonce du décès du chanteur aujourd'hui.
Et c'était une belle occasion pendant la pause pour moi d'ajouter des chansons de Tragically Hip dans ma liste de lecture. Mm-hmm. Mais revenons maintenant à nos moutons. Et qui aura l'honneur de...
Quel mouton va commencer?
Ben, je vais y aller. Je me lance. Alors, je vous avais parlé, je vous avais dit que j'allais parler des problèmes des fonctionnaires autochtones. Le titre de l'article, « Fonctionnaires autochtones, insatisfaction, discrimination et harcèlement ». C'est un article publié le 10 octobre sur le site de la presse signé Maxime Bergeron. Alors qu'Ottawa multiplie les appels à la réconciliation, entre guillemets, avec les peuples issus des Premières Nations, une enquête menée auprès de 2189 fonctionnaires fédéraux autochtones, quand même un bon bassin de répondants, révèle un... Pour... Non, répondant, ça c'est un anglicisme, je pense. Mm-hmm. En tout cas, deux personnes qui ont répondu. Révèle un pourcentage élevé d'insatisfaction, de même que de nombreux cas de discrimination et de harcèlement au travail. L'enquête menée par le groupe Conseil Corus au profit du ministère de la Sécurité publique, obtenue par la presse, indique aussi que 40 % des employés autochtones songent à quitter leur poste d'ici 2 à 3 ans. Des conclusions qui ne surprennent pas du tout Magali Picard, vice-présidente exécutive à l'Alliance canadienne de la fonction publique, l'AFCP, pour le Québec, et porte-parole du Cercle national des peuples autochtones. « Je ne vous ferai pas croire qu'il n'y a pas de discrimination au gouvernement du Canada. Ce n'est pas vrai. » Ce que ça fait, souvent, c'est que les gens ne restent pas en poste. Madame Picard, membre de la nation Huron-Wendat, dit avoir elle-même vécu plusieurs situations troublantes alors qu'elle était employée du gouvernement fédéral. Elle entend encore régulièrement les problèmes de fonctionnaires autochtones pendant des cercles fermés de discussion où ils ne craignent pas les représailles. Pas plus tard qu'en mai dernier, j'ai entendu des histoires d'horreur où des gestionnaires venaient juger les us et coutumes qui sont pratiqués dans les réserves ou les familles en disant que c'était dépassé ou du folklore, que les gens devaient être gênés, raconte la dirigeante syndicale. On entend aussi tous les stéréotypes. Vous ne payez pas vos taxes, votre électricité, c'est aberrant. Parmi les conclusions du sondage de Corus remis en mai dernier au gouvernement, on apprend que 42 % des Autochtones jugent l'accès à des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement inégales. Questionnés sur les plus grandes difficultés rencontrées dans leur emploi, 18 % ont mentionné un manque de respect pour la culture autochtone et 17 % un sentiment de discrimination. Ceux qui ont une expérience négative à l'égard de leur environnement de travail ont abordé les aspects suivants. La discrimination, le harcèlement, l'intimidation et le manque de respect en milieu de travail. C'est ce qu'on peut lire dans le rapport de 123 pages. Dans certains cas, on a rapporté des attaques insidieuses et dans d'autres cas, des situations de discrimination directe. Le sondage souligne que 56 % des fonctionnaires issus des Premières Nations sont satisfaits ou très satisfaits de leur emploi, mais 40 % pensent à quitter leur poste d'ici 2 ou 3 ans, une proportion plus élevée que pour l'ensemble des employés de la fonction publique fédérale, 26 %, donc 26 % du reste des employés qui pensent à quitter leur poste, d'après des données citées dans l'étude. Là, évidemment, je fais une petite parenthèse, on ne sait pas si c'est à cause qu'ils ne sont pas payés, parce qu'il y a le problème avec le système de paie Phoenix qui n'est pas encore réglé, non? Alors, selon la syndicaliste Magali Picard, la situation des Autochtones se serait dégradée dans la fonction publique pendant la décennie du règne des conservateurs entre 2006 et 2015. Oui, on a vu une recrudescence des comportements de harcèlement, d'intimidation, d'abus de pouvoir, de commentaires qui sont vraiment très difficiles à croire dans les années auxquelles nous sommes rendus, et ce, de la part de l'employeur le plus important au pays, faut-il le souligner. Les choses auraient toutefois commencé à s'améliorer depuis la passation des pouvoirs à Ottawa. Même si ça ne va pas à la vitesse qu'on voudrait, l'attitude est différente, le respect est là, et la volonté de rétablir des liens, on la sent. Ça ne peut que nous aider à améliorer les conditions des employés de la fonction publique. C'est toujours Mme Picard qui parle. Au cabinet de Scott Bryson, présidente du Conseil du Trésor qui chapeaute la fonction publique canadienne, on a souligné hier avoir pris un engagement fondamental en vue de renouveler la relation avec les peuples autochtones. Évidemment, les politiciens libéraux sont toujours obligés de mettre plein de mots, là. Renouveler la relation avec, tu sais, en tout cas, bref.
Pas Mélanie Jolie qui a écrit
Il nous ça. Reste bien du travail, ça doit être ça. En matière de recrutement et de rétention des employés autochtones, affirme Jean-Luc Ferland, attaché de presse du président du Conseil du Trésor, Scott Bryson, pour tenter d'attirer davantage de jeunes autochtones, Ottawa a lancé en 2016 un programme de stage d'été destiné aux étudiants, considéré comme un pas significatif dans la bonne direction. Le nombre de participants a triplé entre la première et la deuxième année. Selon des chiffres de mars 2016, quelques 5,2% des parties quiz de mon article. Combien d'employés fédéraux?
Quelques centaines, là, je sais.
Quelques centaines de milliers, voulez-vous dire? Alors, il y a 259 000 employés du gouvernement fédéral.
C'est quand même beaucoup.
Au Canada, c'est beaucoup. Alors, 5,2% d'entre eux sont issus des peuples autochtones. Il s'agit d'une surreprésentation par rapport au taux de disponibilité des autochtones au sein de la population active, qui s'élève à 3,4%, indique une autre étude d'Ottawa. Alors, c'était un article écrit avec la collaboration de William Leclerc. Daniel, c'est votre tour.
Je vous parle d'un artiste qui dit « Il m'a fallu du temps avant de pouvoir travailler sous mon propre nom. » Et il s'agit du fils du célèbre George Harrison, Danny Harrison, qui est musicien lui aussi, auteur-compositeur. Ah oui. Un article que j'ai trouvé sur le site www.lalibre.be.
Et je vous avoue que je n'avais pas entendu parler de ce...
De Danny
Harrison.
Et voilà. Vous allez voir, je ne vais pas tout vous raconter avant de l'aller.
Non, c'est ça. Allez-y.
Danny Harrison, le fils du Beatles, George Harrison, sort son premier album solo, un disque osé et très travaillé, un immense coup de cœur. À bientôt 40 ans, Danny Harrison, Danny, en passant, ça s'écrit D-H-A-N-I. On voit les influences indiennes ici.
Il y avait certains types de drogues qui étaient consommées dans cette époque-là.
À bientôt 40 ans, donc, Danny Harrison n'est pas un novice dans le monde de la musique. Ses premiers pas, il les a faits au début des années 2000, en finissant Brainwashed, l'album posthume de son père George, guitariste des Beatles. Une prouesse qui lui a valu un Grammy. Voyez-vous, même s'il n'est pas connu, il est déjà
Grammy. Oui, hein, quand même.
Depuis, il a déjà enregistré une poignée de disques avec ses groupes The New No Two et Fistful of Mercy avec Ben Harper et Joseph Arthur, multiplié les collaborations avec les plus grands et enregistré de nombreuses bandes originales pour le cinéma et la télévision. Le voici désormais seul à la barre de son premier album sous son propre nom. In Parallel est un disque magnifique et très riche. Quand on dit qu'il a travaillé avec les plus grands aussi, je vous invite, ça vous intéresse? Tapez Danny Harrison ou même Prince et le titre de la chanson « While My Guitar Gently Weeps ». C'était lors du Concert for George, un concert pour George Harrison. Et il y avait un paquet de musiciens sur la scène et c'est Prince qui faisait le solo de guitare.
Ah,
et si je me souviens bien, il faudrait que je le revoie. Il y a Tom Petty qui joue là-dessus aussi. Donc, Danny Harrison, il côtoyait ces gens-là. Là. Tom Petty, Prince, finalement, j'espère qu'il y a un bon alibi. C'est des gens qui sont décédés aujourd'hui.
Mais j'avoue, hein.
Parenthèse. Okay. Bon. Donc, ce qui suit, c'est sous forme d'entrevue. Donc, je vais faire question-réponse. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de sortir un nouvel album sous votre nom? Je voulais me donner le temps et me réaliser en tant qu'artiste à travers des bandes originales pour le cinéma et la télévision, en jouant avec mes groupes préférés et en donnant des concerts partout dans le monde. Il m'a fallu du temps avant d'être en paix avec l'idée de travailler sous mon propre nom. Auparavant, je ne l'étais pas et je multipliais les diversions pour ne pas le faire. C'était une sorte de thérapie. Votre nom de famille vous posait problème? Ce n'était pas un problème, mais ça rendait les choses difficiles en ce sens que les gens étaient d'abord attirés par mon nom et pas par ma musique. La même chose était arrivée à Julian Lennon dans les années 80 quand il a commencé sa carrière.
Ce sont des parents qui sont difficiles à effacer, maintenant.
Des traces difficiles à suivre.
Ouais.
C'est pour ça que j'avais utilisé le nom de The New No Two. Ben, je ne sais pas si on dit New Number Two, mais ça s'écrit N-E-W-N-O-2. Pour éviter qu'ils aient une idée préconçue. Désormais, je n'accorde plus d'importance à cela et ma musique est ce qu'elle est. Ce nouvel album me correspond tout à fait et je suis heureux qu'il sorte sous mon nom. J'ai aujourd'hui nettement plus conscience de qui je suis vraiment et confiance en moi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi le pas? J'ai quasi exclusivement travaillé tout seul lors de la composition des chansons. Mon ami Jonathan Bates du groupe Big Black Delta, à qui j'ai demandé un coup de main, m'a dit que c'était un excellent album et qu'il ne fallait pas qu'il reste caché dans un tiroir ou qu'il sorte en catimini. C'est lui qui m'a dit que je devais le sortir sous mon propre nom et je me suis dit que le moment était arrivé de le faire. C'était une étape importante dans votre vie. L'accueil que reçoit ce disque a boosté ma confiance. Je vais poursuivre dans cette voie et continuer à créer. Cela signifie que vous avez mis un terme aux aventures avec The New No2 et Fistful of Mercy. The New No2 est désormais devenu un projet basé sur le design et le cinéma. Quant à Fistful of Mercy, nous avons commencé à enregistrer un nouvel album il y a un peu plus d'un an, mais après avoir écrit une chanson, nous avons chacun dû partir en tournée. C'est difficile car nous sommes tous très occupés. Pour le moment, par exemple, je travaille sur la musique d'un documentaire et celle d'un show TV inspiré de Californication destiné à un grand réseau aux États-Unis. Tout cela dépend évidemment beaucoup de temps. Comment décririez-vous In Parallel? C'est la bande originale d'un film qui n'existe pas, celui de ma vie peut-être, une sorte de version cinématographique de ce que j'ai vécu. Au niveau du son, ça se situe entre le drum and bass et le grunge. Appelons ça du grunge and bass. Ah oui, voilà, c'est écrit rire entre parenthèses. Je sais pas, fait signe. À vous entendre, votre agenda ressemble à celui d'un premier ministre. Trouvez-vous encore du temps pour mettre en valeur l'œuvre de votre père? Et l'inévitable, hein? Faut toujours en parler. Nous avons passé un temps fou pour remasteriser ses 16 albums sur CD et vinyle et créer le box set avec toute sa musique. On a sorti un documentaire, réédité le livre consacré à George, le concert pour le Bangladesh, celui du George Fest, etc. Et l'enregistrement du Concert for George va bientôt sortir en vinyle, ce qui est une première. Tout ce qui était prioritaire à mes yeux est désormais entre les mains du public. Les fans ont largement de quoi faire pour le moment. Désormais, on va se concentrer sur la création d'événements du type exposition permanente ou itinérante, des souvenirs, etc. Il n'y a plus d'archives inédites à sortir. Il reste des démos, mais il n'y a pas de raison de venir déforcer l'œuvre principale en publiant des choses qui ne font pas le poids. Je ne dis pas que ces démos sont de mauvaise qualité, mais nous avons des critères de sélection très élevés, contrairement à ceux qui publient tout et n'importe quoi. Si certains inédits sont suffisamment bons à nos yeux, ils seront un jour publiés. Mais la plupart de ce qui existe et qui est de bonne qualité l'a déjà été. En passant, je vous invite à faire une petite recherche, taper Danny Harrison, juste pour voir la ressemblance avec son père. C'est assez impressionnant.
Ah, oui, hein?
D'ailleurs, la vidéo que je vous parlais tantôt, si vous allez le visionner, While My Guitar Gently Weeps, à la fin du solo guitare de Prince, il se retourne puis il regarde Danny Harrison. Et la première fois qu'on le voit, on a l'impression que c'est George qui est revenu. C'est incroyable comment il ressent.
Ah, j'avoue, voilà. C'est impressionnant. Serge, vous aviez dit que vous nous parliez de... J'ai déjà oublié, je vous écoutais.
On a égaré une bombe atomique.
Ah oui, c'est vrai, c'est la
fameuse
bombe.
Comment peut-on oublier ça?
Et si j'ai le temps aussi, le baby lift.
Je pense que j'avais voulu l'effacer de mon esprit.
Oui, c'est oui. Alors, c'est un article d'Yann Bellon dans la revue « Ça m'intéresse, histoire ». Alors, le titre, c'est « Oups, on a égaré une bombe atomique ». Le 17 janvier 1966, dans le ciel espagnol... un avion bombardier B-52 de la US Army se prépare à une opération de ravitaillement en vol. Est-ce que ces avions-là peuvent être ravitaillés pour l'essence en vol en plein vol? Ce qui fait qu'ils peuvent rester, ils peuvent rester constamment dans les airs. Le Boeing KC-135 Stratotanker s'approche pour l'approvisionner en carburant. La routine. Mais rien ne se passe comme prévu et les deux appareils entrent en collision. Horreur. Le choc entraîne une explosion et 7 membres des équipages sont tués. Un drame. Mais il y a pire. Dans sa chute, le B-52 largue ses 4 bombes à hydrogène. 4. Chacune possède une puissance 70 fois supérieure à celle lancée sur Hiroshima en 1945.
Ah
ouais. Aïe, 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 70 fois chacune.
C'est beaucoup.
Et beaucoup. Trois d'entre elles percutent le sol sans provoquer d'explosion nucléaire, car leur système de mise à feu n'est pas enclenché. On est passé près de quelque chose. Ouais. Le cataclysme est évité, même si du plutonium radioactif se diffuse dans les terres.
Oui, bon, quand même.
Et la quatrième bombe, elle est disparue. Sans doute tombée en mer au large de Palomares, la province d'Almeria. Les autorités militaires américaines sont unanimes. On craint le pire. Et si elle atterrissait entre de mauvaises mains? Et si la mise à feu est enclenchée accidentellement? Il faut tout faire pour la retrouver au plus vite. La presse est déjà sur le coup. À un journaliste qui l'interroge sur la localisation de l'engin thermonucléaire, un officier répond, suivez bien la réponse, « Je ne connais aucune bombe manquante, mais nous n'avons pas positivement identifié ce que je pense que vous croyez que nous sommes en train de rechercher. »
Pardon?
Ce que je pense que mais vous croyez que nous sommes en train de
rechercher. Je ne connais aucune bombe manquante, mais nous n'avons pas positivement identifié ce que je pense que vous croyez que nous sommes en train de rechercher. Avec des réponses comme ça, il faut en rire même si c'est dramatique.
Ben oui, c'est
là,
ça.
Avec des réponses comme ça, l'armée passe pour un repère de joyeux amateurs. Une caricature du Washington Post représente un officier américain interpellant en Espagne un homme assis sur son baudet. Excusez-moi, n'auriez-vous pas vu une bombache? De plus, l'état-major américain doit convaincre l'opinion qu'une arme nucléaire introuvable, non, ce n'est pas du tout dangereux. Cette fois, c'est le New York Times qui se la joue caustique. Bon.
Oui, c'est ça.
L'aviation nous assure que la technique de sécurité de l'arme est si grande que la probabilité de voir exploser une bombe H perdue est exactement aussi faible que celle d'en perdre une.
OK.
Je pense qu'à bas l'autre, celle-là.
Oui, c'est ça. Oui, OK.
En Espagne, on panique aussi. Une bombe H dans la Méditerranée, ce n'est pas bon pour le tourisme. Le 7 mars, pour rassurer les futurs estivants, le ministre du Tourisme espagnol, Manuel Fraga Iribarne, parade sur la plage en costume de bain. Devant les photographes, il pique une tête dans la Méditerranée. La bombe est en train de tous leur faire perdre la tête. D'autant plus qu'au large, les investigations sont fastidieuses. Cela fait près de 2 mois que l'on fouille sans résultat. L'armée mobilise 3000 hommes, 38 vaisseaux et le sous-marin Alvin pour plonger à 6000 pieds. Le 15 mars, victoire, la bombe est localisée à 765 mètres de profondeur. L'aluminote, un autre submersible, s'approche de l'Alvin pour prendre le relais. Soudain, il bascule vers l'arrière et manque de l'écraser, la bombe. La mission a encore failli tourner au vinaigre. L'opération de repêchage débute. On tracte le précieux collier avec un câble. Il n'est plus qu'à 30 mètres de la surface lorsque la mare se rompt. La bombe repart vers les fonds marins. Une semaine plus tard, elle est à nouveau localisée. Ultime montée d'angoisse. Lors d'une dernière plongée, l'Alvin est tout proche de s'accrocher au parachute de la bombe. Le poids de cette dernière aurait été un lest fatal pour le submersible. Le 7 avril, le projectile est enfin déposé sur le pont du vaisseau USS Petrel. Pour la presse, les militaires posent à côté de l'arme atomique fraîchement repêchée. Fin de 81 jours de suspense, l'apocalypse nucléaire n'aura pas lieu. Mais on est passé à côté de quelque chose. Trois bombes à 65 fois... Enfin, quatre bombes à 65 fois plus que chacune que la bombe d'Hiroshima. Imaginez le beau gâchis.
Ouais. Alors, maintenant, vous nous parlez de bébé...
Oui, là, c'est moins rigolo. Là. Je pense qu'on ne rira pas sur celle-là. Là, c'est un article de Baraka dans la même revue. Ça m'intéresse, histoire. Vol sans retour. Ben, je vous montre la photo. Regardez. Tous les bébés
alignés
sur les sièges d'avion.
Ben
oui,
c'est... Ouf, petit coco. Oui.
Avril 1975, la guerre du Vietnam touche à sa fin. Dans quelques semaines, les communistes auront repris le contrôle du sud du pays. Dans l'urgence, les États-Unis organisent un rapatriement de masse d'enfants vietnamiens. C'est l'opération Baby Lift. Il s'agit pour le président Ford, alors président des États-Unis, d'évacuer les orphelins de guerre en cours d'adoption
et de protéger les descendants métis des foudres du communisme. On sait que beaucoup de soldats américains ont été en couple avec des Vietnamiennes et les enfants qui sont nés étaient des métis, mais étaient des sujets américains.
Ouais.
Mais c'est aussi une tentative désespérée de s'attirer la sympathie de l'opinion publique américaine, devenue anti-guerre, évidemment. Baby Lift démarre le 4 avril par un drame. Ce jour-là, le tout premier avion du dispositif, un C-5 Galaxy de l'US Air Force, se crache après le décollage.
Oh.
Bilan, 138 morts, dont 78 enfants.
Oh, c'est vraiment triste. Ouais.
Malgré cette tragédie, l'opération est maintenue. Au total, entre le 4 et le 26 avril, près de 2000 bébés sont emmenés aux États-Unis, sans compter ça, ceux qui sont acheminés vers le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie ou la France. Bébé sauvé ou bébé enlevé? Là, c'est la question. L'opération est controversée et qualifiée de kidnapping massif, car il n'y a pas que des orphelins. À l'époque, certaines familles qui n'ont pas les moyens de nourrir leurs enfants ou de les garder pendant la journée, les placent à l'orphelinat, les récupérant le soir ou leur rendant visite. Parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui tentent par tous les moyens de faire monter leurs enfants dans un avion baby lift, rêvant pour eux d'un avenir meilleur ou pensant les retrouver un jour à destination. C'était une époque très chaotique, nous explique Trista Goldberg, fondatrice de l'association Operation Reunite, qui aide à mettre en contact les familles et les orphelins. Mais c'est très compliqué. Il n'y a pas de registre. Les orphelinats de l'époque n'existent plus. Reste l'ADN. C'est l'objectif de l'opération Reunite, créer une base de données génétiques permettant à chacun de retrouver ses proches et de panser les blessures du passé.
Eh bien, histoire de remettre l'atmosphère sur une note un peu plus positive, je vais vous parler d'une campagne des messages en langue autochtone sur les préservatifs. C'est une nouvelle campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle en Saskatchewan encourage les gens à se protéger dans les langues Cree, Dene et Mi'kmaq sur les emballages des préservatifs. Alors, Pitikwe, traduction « entrée ». C'est l'un des 6 slogans que l'on peut lire sur les emballages de préservatifs en Saskatchewan. Celui-ci est en langue Cree. Mais il y a aussi en Dene « Bakakaninite », quelque chose comme ça, qui veut dire « éteignez la lumière » ou encore en Mi'kmaq « Namuya Nipan » qui se traduit par « je n'ai pas sommeil ». Un peu d'humour proposé en 3 langues autochtones, mais aussi en anglais, pour encourager la population à adopter des pratiques sexuelles sécuritaires. Cette nouvelle campagne de promotion de la santé sexuelle, nommée « Wrap it up SK », hashtag « Wrap it up SK », donc « Wrap it up Saskatchewan », j'imagine, et donc « Wrap it up », en français, ça voudrait dire « emballez-le ».
Emballez, ouais.
Oui.
Wrap it up. Wrap.
Emballons cet objet.
Emballons.
Et mis sur pied par AIDS Saskatoon, souhaite atteindre les résidents du nord de la province. 100 000 préservatifs ont été envoyés dans les 47 collectivités du nord de la Saskatchewan afin qu'ils soient distribués avec l'aide des Premières Nations. Nous pensons que tous les renseignements sur la santé, y compris tout ce qui promeut une sexualité protégée, devraient être accessibles aux Autochtones. Les 6 slogans ont été choisis par des jeunes du nord de la Saskatchewan. Nous sommes fiers d'offrir des articles humoristiques sur la sexualité et la sécurité qui sont culturellement appropriés et inclusifs aux nations métisses, dénées et cries du nord de la Saskatchewan, a précisé Jason mercredi. Alors, les langues autochtones sont en hausse, il est donc logique que nous les proposions dans ces langues. Moi, je trouve que c'est toujours une bonne occasion de faire de l'humour. Allez, c'est ce qui met fin à cette émission Les Voix de Service Magazine. Merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde, et Daniel Lachance, oui. Serge Bradet, moi-même, Isabelle Falardeau. Enfin, dans le cas de Serge Bradet, nous vous disons dans 2 semaines.
Oui, dans 2 semaines.
Mais sinon, à la semaine prochaine.
Oui, je devrais être là la semaine prochaine.
Merci d'avoir été là. Au revoir. Bonjour.